Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, France, temps favorable, chapitre 17e, premiers essais de Calvin à Paris, 1529. Calvin, ayant dit adieu aux villes, aux bourgades et aux châteaux du Berry, était arrivé au milieu des plaines, des collines, des verts pâturages et des belles forêts qui s'étendent sur les deux rives de l'Oise. Il s'approchait de cette petite ville de Noyon qui avait été quelque temps la capitale de l'empire de Charlemagne et où le chef de la troisième race, Hugues Capet, avait été élu roi. Mais il pensait à tout autre chose. Il pensait à son père. En découvrant cette belle cathédrale gothique au pied de laquelle il avait été élevé, il se disait que ses dalles ne seraient plus foulées par les pieds de son père. Jamais il n'était revenu à Noyon avec des émotions si profondes. La mort de Berquin, la mort de son père, l'avenir de l'Église et son propre avenir, tout l'accablait. Il trouva des consolations dans les affections de la famille, surtout dans l'amitié dévouée de son frère Antoine et de sa sœur Marie, qui devait un jour l'accompagner dans son exil. Pressé par tant d'afflictions, il eût succombé sous le fardeau comme un homme demi-mort si Dieu ne lui eût rendu le courage en le redressant par sa consolation. Son père, ce vieillard d'un esprit si entier, d'une main si ferme et dont il vénérait l'autorité, n'était plus là pour le conduire. Calvin était libre. Gérard avait décidé que son fils se consacrerait à la jurisprudence et parviendrait ainsi à une position élevée dans le monde. Calvin aspirait, il est vrai, à un autre avenir, mais par obéissance il avait renoncé à ses désirs les plus vifs. Maintenant, se sentant libre, il se tourna vers cette carrière chrétienne où il devait être, avec Luther, le plus grand athlète des temps modernes. « Les pères terriens, disait-il un jour, ne doivent pas empêcher que le souverain et seul père de tous ait son droit. » Cependant, Calvin ne pensait point encore à devenir un réformateur dans le même sens que Luther. Il eût alors voulu que toute l'Église fût transformée plutôt que de se mettre à part et d'en faire une nouvelle. La vérité qu'il voulait annoncer, c'était l'antique vérité chrétienne prêchée à Rome par saint Paul. Les scribes y avaient substitué de fausses traditions humaines, mais c'était un motif de plus pour prêcher dans l'Église la doctrine qui avait fondé l'Église. Après la première phase de la vie chrétienne, où l'homme ne s'occupe que de Christ, en vient d'ordinaire une seconde, celle où le chrétien ne se mêle pas volontiers à des assemblées contraires à ses convictions. Calvin était alors dans la première de ces phases. Il ne pensait qu'à prêcher l'Évangile. Ne possède-t-il pas dans ces lieux même une chaire, et son devoir n'est-il pas d'y glorifier Jésus-Christ? Il l'eût fait s'il l'eût pu dans Saint-Pierre de Rome. Pourquoi donc ne le ferait-il pas dans sa propre Église? Calvin avait des amis en Picardie, même parmi les dignitaires du clergé. Ces hommes, attachés dès longtemps à leurs jeunes compatriotes, l'avaient reçu avec joie. Ils l'avaient trouvé plus savant, plus pieux, et n'avaient rien remarqué en lui qui fût contraire à la vérité chrétienne. Ils pensaient qu'il pouvait devenir l'un des soutiens de l'Église. La circonstance qu'il avait étudié le droit ne les arrêtait pas, elle le rendait à leurs yeux plus propre encore à soutenir les intérêts de la foi et du clergé. Bien loin de le repousser, ses anciens protecteurs cherchaient donc à se l'attacher toujours plus. Le noble ami de son enfance, Claude de Hangest de Montmort, devenu abbé de Saint-Éloi, lui offrit de lui faire donner la cure de Pont-l'Évêque en échange de celle de Saint-Martin de Marteville. Calvin, voyant dans cette offre la facilité de prêcher dans le lieu même où ses ancêtres avaient vécu, accepta. Puis il résigna en faveur de son frère Antoine la chapelle de la Gésine, dont il était depuis 8 ans le titulaire. L'acte est du 30 avril 1529. Les mêmes amis qui présidèrent à ces diverses mutations encourageaient Calvin à prêcher. Quand un jeune homme qui a fait des études pour le ministère de la parole revient dans sa ville ou dans son village, chacun désire l'entendre. La curiosité était encore plus vivement excitée dans le cas de Calvin, car sa réputation l'avait devancé dans les lieux de sa naissance, et quelques petites inculpations d'hérésie, de temps en temps hasardées, ne faisaient qu'augmenter l'empressement général. Chacun veut entendre le fils du secrétaire épiscopal, le petit-fils du tonnelier. Ceux et celles qui l'ont connu se dirigent vers l'église. On y vient même de Noyon. Le lieu saint se remplit. Enfin, un jeune homme d'une taille médiocre, d'une figure pâle et maigre, dont le regard révèle une ferme conviction et une vive ardeur, Calvin monte dans la chaire et explique les saintes écritures à ses compatriotes. Les effets de cette prédication furent très divers. Plusieurs se réjouissaient d'entendre enfin une parole vivante sous ces voûtes qui avaient retenti de tant de paroles vides et inutiles. De ce nombre étaient sans doute certains hommes notables qu'on voyait se presser alors autour du prédicateur. Laurent de Normandie, qui jouissait dans le pays d'une grande considération, Christophe Lefebvre, Lancelot de Montigny, Jacques Bernardi, Corneille de Villette, Nicolas Néret, l'abbé, dit le Balafré, Claude Dupré, Nicolas Picot, beau-frère d'Antoine Calvin. Tous furent plus tard accusés d'avoir embrassé la nouvelle doctrine et condamnés par le Parlement de Paris à être traînés sur la claie et brûlés sur la place de Noyon, mais déjà ils avaient quitté le royaume. La parole du jeune prédicateur ne communiquait pas simplement des connaissances nouvelles. Elle opérait une transformation du cœur et de la vie. Or, il y avait là des esprits tout prêts à recevoir certaines idées évangéliques, mais qui n'entendaient changer ni leur vie, ni leur cœur. La même parole faisait ainsi naître la foi chez les uns et l'opposition chez les autres. Elle séparait la lumière des ténèbres. Quelques bigots, quelques prêtres, s'élevaient surtout contre la prédication du jeune homme au regard grave et passionné. « On baille les brebis à garder au loup !» s'écriait-il. Calvin ne séjourna que 2 ou 3 mois à Noyon. Peut-être une opposition naissante l'engagea-t-elle à partir. Il désirait d'ailleurs poursuivre l'étude des lettres grecques. Mais au lieu de retourner à Orléans ou à Bourges, il résolut de se rendre à Paris. Le moment était favorable. L'enseignement des humanités prenait alors de grands développements dans la capitale. François Ier, à la demande de Budé et de Joaquin du Bellay, venait de fonder en 1529 diverses chaires pour l'enseignement des lettres latines, grecques et hébraïques. C'était une véritable révolution, et tout était en mouvement à Paris quand Calvin y arriva. Le bizarre échafaudage que les scolastiques, théologiens, jurisconsultes et philosophes avaient élevé pendant le Moyen-Âge s'écroulait au milieu des rires et des quolibets, et la science nouvelle s'élevait aux applaudissements unanimes de la génération naissante. Pierre Danès, élève de Budé et de Lascaris, plus tard évêque, enseignait les lettres grecques. François Vatable introduisait de jeunes savants dans la connaissance des écritures hébraïques, sans savoir y trouver lui-même le conseil de Dieu. D'autres illustres professeurs complétaient cet enseignement précieux. Paris était un foyer d'où la lumière rayonnait, et c'était la raison qui avait porté Calvin à quitter Noyon, Bourges, Orléans même, et à précipiter ses pas vers la capitale. Le voyage fut très pénible. Calvin, à cheval ou à pied, je l'ignore, arriva à Paris vers la fin de juin, abîmé de fatigue. « Impossible, dit-il le lendemain, que je mette le pied hors de la maison. » Il n'en sortit pas de 4 jours. Mais la nouvelle de son arrivée s'étant bientôt répandue, ses amis, ses admirateurs, accoururent à l'hôtellerie, et pendant ces 4 jours, sa chambre ne désemplit pas. Toute l'agitation des écoles y semblait transportée. On parlait de Budé, de Vatable, de Danès, de Grec, d'Hébreu, du soleil des lettres qui éclairait enfin la vieille Lutèce. Calvin écoutait et se mettait au courant de l'état des esprits. Un des premiers qui accourut à lui fut son ancien condisciple à Orléans, Coiffard, et même il amenait son père avec lui. On se disputait l'étudiant de Noyon déjà illustre. « Venez demeurer chez nous, » dit le jeune Parisien. Calvin refusant. « Je vous en conjure, » dit Coiffard, de l'accent le plus affectueux. « Accordez-moi cette faveur. » Le père insistait encore plus. Ce bon bourgeois de Paris, sachant quel ami solide son enfant un peu léger trouverait dans l'étudiant Picard, disait « Il n'y a rien au monde que je désire comme de vous associer à mon fils. « Venez, venez, » reprenait le fils. « Soyez mon compagnon. » Calvin était touché de cette affection, mais il craignait les distractions de cette demeure et n'avait qu'un but, le travail. « Certes, dit-il, C'est dès demain que j'embrasserai votre offre, mais j'ai l'intention de suivre les cours de grec de Danès, dont l'école est fort éloignée de votre maison. » Le père et le fils se retirèrent, très contrariés. Peu après arriva dans la chambre un homme plus considérable, Nicolas Kopp, professeur de Sainte-Barbe. Son père, originaire de Bâle, venait d'être nommé médecin du roi. Le père et le fils étaient fort soupçonnés d'être dans les sentiments nouveaux, mais alors François Ier ne s'en souciait guère. Kopp père avait traduit Galien, Hippocrate. Le roi lui confia les soins de son corps. Une étroite amitié unit bientôt Calvin et le fils. Celui-ci, quoique professeur à l'université, écoutait l'étudiant de Noyon comme un disciple écoute son maître. C'est ici l'une des marques de cette supériorité de Calvin que chacun devait à l'instant reconnaître. Il montrait à son ami comment Christ fait office de médecin, puisqu'il est envoyé du Père pour vivifier les morts. Les conversations que ces deux jeunes hommes eurent alors ensemble devaient avoir plus tard pour résultat un événement qui exerça une certaine influence sur les destinées du réformateur et de la réforme elle-même. Un autre objet moins important les occupa. Ce fut ici la première affaire de Calvin à Paris, et le récit qu'il en fait jette un certain jour sur les mœurs du temps. L'habitude d'enfermer dans un couvent de jeunes personnes qui avaient quelque tendance vers l'Évangile avait déjà commencé. Notre ami commun, l'avocat Daniel, dit Calvin à Kopp, a l'une de ses sœurs dans un cloître de Paris. Elle doit y prendre le voile. Or, Daniel désire savoir si c'est de son plein gré. « Je vous y accompagnerai, » dit le professeur. En effet, le dimanche suivant, Calvin étant remis de ses fatigues, les deux amis se rendirent au monastère. Déjà alors, le futur réformateur était opposé aux vœux monastiques, surtout à la contrainte. Il s'y prit habilement pour savoir si l'on ne portait pas atteinte à la liberté de la jeune fille. « Parlez avec l'abbesse, » dit-il à Kopp, en se rendant au monastère, « et faites en sorte que je puisse m'entretenir en particulier avec la sœur de notre ami. » L'abbesse, suivie de la jeune fille, parut au parloir. « Nous lui avons accordé, » dit la première, « la grâce de faire solennellement ses vœux. » Alors, conformément à sa consigne, Kopp se mit à entretenir la supérieure de divers sujets qui n'avaient aucun rapport avec le cas dont il était question. Pendant ce temps, Calvin, qui croyait avoir devant lui une victime, profita de l'aparté. « Est-ce volontairement, dit-il à la sœur de Daniel, que vous prenez ce joug, ou le mettons de force sur votre tête ? Confiez-moi sans crainte les pensées qui vous agitent. » La jeune fille regarda Calvin d'un air étourdi et lui répondit avec une grande volubilité. « Le voile est tout ce que je demande, et le jour où je ferai mes vœux ne viendra jamais assez tôt. » Le futur réformateur était fort étonné. Il avait devant lui une jeune personne légère, à qui on avait fait croire qu'elle s'amuserait beaucoup au cloître. « Vraiment, disait Calvin, chaque fois qu'elle parle de ses vœux, on dirait qu'elle joue avec sa poupée. » Il voulut pourtant lui adresser quelques paroles sérieuses. « Mademoiselle, lui dit-il, je vous invite à ne pas vous confier trop en vos propres forces. Je vous conjure de ne rien promettre comme si de vous-même vous pouviez l'accomplir. Appuyez-vous plutôt sur la force de Dieu dans lequel nous avons l'être et la vie. » Peut-être Calvin pensait-il qu'en parlant à cette jeune fille si sérieusement, elle abandonnerait sa folle entreprise. Il se trompait. Il retourna à son hôtellerie. Et le lendemain, ou surlendemain, 25 juin, il écrivit à Daniel le récit de sa visite au couvent. L'ayant fini, il commençait une autre lettre adressée à un chanoine d'Orléans quand arriva un de ses amis qui venait le prendre pour faire un tour à cheval. Nous pourrions supprimer ce détail comme étant sans aucune importance, mais c'est peut-être un trait inattendu dans les habitudes de Calvin. On ne se le représente guère que plongé dans ses livres ou reprenant les déréglés. Et pourtant, il n'était pas étranger aux délassements honnêtes de la vie. Il savait monter à cheval et prenait plaisir à cet exercice. Il accepta la proposition de Virmet, son ami. « Je finirai ma lettre au retour, » dit-il, et les deux étudiants partirent pour faire leur promenade dans les environs de Paris. Quelques jours après, Calvin prit une chambre dans le collège de Fortrait où il se trouvait près de ses professeurs et se mit à étudier de nouveau les lettres, le droit, la philosophie. Calvin voulait savoir. Ayant reçu la connaissance des choses divines, il voulait obtenir la vraie intelligence du monde. Mais l'appel d'en haut retentit bientôt plus fort que jamais dans son âme. Quand il était dans sa chambre, entouré des recueils de jurisprudence, la voix de sa conscience lui criait qu'il devait étudier la Bible. Quand il sortait, tous ceux de ses amis qui avaient de l'amour pour la pure religion le suppliaient de se donner à l'Évangile. Calvin était l'une de ces forteresses qui ne se prennent pas du premier assaut. Lorsqu'il revoyait ses livres, épars dans sa chambre d'études, il ne pouvait se résoudre à les abandonner. Mais toutes les fois que, dans le cours de sa vie, Dieu lui parla clairement, il fit taire ses plus vifs désirs. Sollicité au dedans et au dehors, il se rendit. « Je renonce aux autres sciences, dit-il, et je me donne tout entier à la théologie et à Dieu. » Cette nouvelle se répandit dans les assemblées secrètes des fidèles, et tous en eurent un grand contentement. Il y avait eu un puissant mouvement dans l'âme de Calvin. Mais, il faut le comprendre, il n'y avait point de plan dans son esprit. Calvin était sans ambition, sans art, sans rôle. Mais il faisait avec une forte volonté ce que Dieu plaçait devant lui. Le temps qu'il passa alors à Paris fut celui de son apprentissage. S'étant donné à Dieu, il se mit à l'œuvre avec la décision d'un caractère énergique et la fermeté d'un esprit persévérant. Il étudiait la théologie avec enthousiasme. « La science de Dieu est la maîtresse, disait-il. Les autres ne sont que ses servantes. » Il donnait de la consistance à cette petite troupe d'élite qui, au milieu de la foule des lettrés, se tournait avec amour vers la Sainte Écriture. Il entraînait de jeunes et nobles esprits. Il étudiait avec eux et cherchait à résoudre leurs difficultés. Il fit plus. La mort de Berquin avait frappé de terreur tous ses amis. « S'ils ont brûlé ce bois vert, disait-on, ils n'épargneront pas le bois sec. » Calvin, sans se laisser arrêter par ses terreurs, se mit à parcourir cette ville devenue si dangereuse, se joignit aux assemblées secrètes qui, à l'ombre de la nuit, se formaient dans des quartiers reculés, et y expliqua les Écritures avec une clarté et une énergie dont on n'avait pas eu d'exemple. C'était surtout sur la rive gauche de la Seine que ces réunions avaient lieu, dans cette partie de la ville que les catholiques appelèrent plus tard la Petite Genève, et qui est au contraire, à cette heure, le siège du catholicisme parisien. Un jour, les évangéliques se rendaient mystérieusement dans quelques maisons relevant du domaine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont Brissonnet avait été abbé. Un autre jour, on était sur le territoire de l'université, le quartier latin de nos jours. Il y avait là quelques bancs de bois sur lesquels venaient se placer de pauvres gens, quelques écoliers, souvent aussi quelques lettrés. Ils aimaient ce jeune homme si simple, qui faisait si bien entrer dans leur esprit et dans leur cœur les choses qui sont dans la Bible. « La parole de Christ est toujours un feu, disait-il, mais ce feu se montre en elle quand celui-ci l'explique d'une manière non accoutumée. » De jeunes hommes se formaient sur son modèle, mais plusieurs, au lieu de chercher comme Calvin l'édification, se jetaient dans la controverse. On voyait dans tout le territoire qui relevait du recteur magnifique les élèves de Daniel et de Vatable, tenant en main leur testament hébreu et grec, disputer avec tout le monde. « C'est ainsi que porte le texte hébreu, disait-il. C'est ainsi qu'il y a dans le grec. » Calvin, pourtant, ne dédaignait pas la polémique. Suivant la pente naturelle de son esprit, il attaquait les erreurs, il accusait les coupables. Quelques-uns s'étonnaient de ses discours. « N'est-ce pas là le curé de Pont-l'Évêque, disait-on, l'ami de Monseigneur de Saint-Éloi ? » Mais sans se laisser arrêter par ses paroles, il confondait à la fois les papistes superstitieux et les novateurs incrédules. Il était tout entier à la théologie et à Dieu, au grand contentement de tous les fidèles. Déjà, l'on commençait à voir se dessiner en lui, en quelques traits du moins, le caractère de chef de la réforme. Doué d'une grande facilité de correspondance, il s'instruisait et instruisait les autres de tout ce qui se passait dans le monde chrétien. Il fit alors un recueil de pièces, de documents, qui se rapportaient aux faits les plus récents de la réformation et les envoya à Duchemin. Mais non pour que Duchemin les gardât. « Je te les envoie à cette condition, lui écrivait Calvin, que selon ta bonne foi et aussi selon ton devoir, ces pièces passent par tes mains pour être transmises aux amis. » Il joignit à cet envoi un épitome, des commentaires, des recueils de notes faits probablement par Roussel durant son séjour à Strasbourg. Il se proposait d'y ajouter un appendice. « Mais, dit-il, le temps m'a manqué. » Calvin voulait que tous les amis du Saint-Évangile profitassent des lumières qu'il avait lui-même. Il mettait en circulation les idées et les écrits nouveaux. Appliqué à l'étude, évangéliste infatigable, ce jeune homme de 20 ans était, par son coup d'œil étendu, presque un réformateur. Il ne bornait pas ses travaux à Paris, à Orléans, à Bourges, à Noyon. La ville de Meaux le préoccupait. Meaux, qui avait accueilli Lefèvre et Farel, qui avait entendu le premier martyr, Leclerc, possédait encore Brissonnet. Cet ancien protecteur des évangéliques ne voulait plus les voir, il est vrai, et paraissait absorbé par les honneurs et les séductions de la prélature. Mais quelques-uns croyaient qu'au fond du cœur, il aimait l'Évangile. Quel triomphe si la grâce de Dieu venait à refleurir dans son âme! Daniel avait des amis à Meaux. Calvin le pria de lui ouvrir la porte de cette ville, ou plutôt, selon son expression, la fenêtre. Au nombre de ses amis se trouvait un certain Mécène. Le jeune docteur, écrivant de Meaux, fait de ce personnage un portrait qui convient parfaitement à l'évêque. Il ne nomme pas Brissonnet, mais souvent il supprime les noms, ou emploie soit des lettres initiales, soit des pseudonymes. On pourrait presque dire qu'ici le nom n'était pas nécessaire. Daniel écrivit donc au Mécène. Mais celui-ci répondit avec une grande froideur. « Je ne puis aller avec ces gens-là, disait-il, je ne saurais conformer mes manières aux leurs. » Daniel insista, mais tout fut inutile. Le craintif Mécène ne voulut à aucun prix entrer en rapport avec Calvin. Brissonnet, on nous l'apprend, était entouré de gens qui ne cessaient de lui répéter « Un évêque ne doit avoir aucun commerce avec des gens suspects de nouveauté. » Calvin, qui avait animé la plus noble ambition, celle de ramener à Dieu une âme qui s'en éloigne, se voyant éconduit à chaque fois qu'il se présentait à la porte de ce grand personnage, renonça à la fin à sa généreuse entreprise. Et, secouant la poussière de ses pieds, « Eh bien, dit-il avec sévérité, puisqu'il ne veut pas être avec nous, qu'il se délecte donc en lui-même, et que le cœur tout plein, ou plutôt gonflé de sa propre importance, il ne pense qu'à choyer son ambition. » Calvin n'échoua pourtant pas entièrement à Meaux. « Vous m'avez donné un secours prompt et efficace, écrivit-il à Daniel. Vous m'avez ouvert une fenêtre et vous m'avez ainsi donné la liberté d'être à l'avenir un solliciteur indiscret. » Il profita de cette ouverture pour répandre l'Évangile. « Je le ferai, dit-il, sans imprudence et sans précipitation. » Et, se rappelant que la doctrine de Christ est comme le vin vieux qui ne jette point d'écume, mais qui toutefois donne nourriture au corps, il se mit à remplir des vases de ce vin précieux. « Je prendrai soin, écrit-il à Daniel, que l'intérieur soit bien rempli de ce vin. » Il finit sa lettre en disant « J'ai besoin de l'Odyssée d'Homère que j'ai prêté à Suquet. Veuillez le lui dire. » Luther avait emporté au couvent Plaute et Thérence. Calvin demandait Homère. Bientôt, il revint à Paris qui lui présentait un vaste champ de travail. Le 15 janvier 1530, il écrivit à Daniel une lettre qu'il data de l'Acropole, comme si Paris était pour lui la citadelle du catholicisme ou le Parthénon de la France. Il cherchait toujours quelques brebis perdues à sauver. Une telle pensée le préoccupait le 15 janvier. Il attendait ce jour-là deux amis à dîner. L'un de ses invités, Robert Daniel, frère de l'avocat d'Orléans, jeune homme enthousiaste, brûlait du désir de voir le monde. Calvin, qui avait déjà fait ce qu'il pouvait pour le gagner, se flattait ce jour-là de réussir. Mais l'étourdi se douta peut-être de ce qu'il attendait, il ne vint pas. Calvin envoya un messager à l'auberge de Robert. « Il a décampé, dit l'hôte, il est parti pour l'Italie. » À Meaux, Calvin avait voulu gagner un grand personnage, à Paris un jeune aventurier. Dans l'un et l'autre cas, il avait échoué. « Hélas, disait-il, je suis un bois sec et inutile. » Et il cherchait de nouveau en Christ toute sa vigueur. Cependant, la Sorbonne, fière de la victoire qu'elle avait remportée quand elle avait fait brûler Berquin, était décidée à poursuivre ses triomphes. La guerre allait recommencer. Ce fut Béda, dont Erasme avait dit, dans le seul Béda il y a 3000 prêtres, qui commença le combat. Il ne s'en prit point à Calvin par dédain ou plutôt par ignorance. Il visait plus haut, et ayant triomphé d'un gentilhomme du roi, il s'en prit au docteur que ce prince avait appelé à Paris pour l'enseignement des lettres. Danès, Vatable et d'autres ayant été cités devant le Parlement, le fougueux syndic se leva. Les docteurs du roi négligent Aristote, dit-il, et n'étudient que les saintes écritures. Si l'on continue à s'occuper du grec et de l'hébreu, c'en est fait de la foi. Ces gens veulent expliquer la Bible et ils ne sont pas même théologiens. Les livres grecs ou hébreux de la sainte écriture viennent de la plupart des Allemagnes, où l'on peut certes les avoir altérés. Plusieurs de ceux qui font imprimer des livres en hébreu sont juifs. Ce n'est donc pas un argument suffisant que de dire « c'est ainsi que porte l'hébreu ». Il faut défendre à ces docteurs de s'occuper dans leurs cours de la Sainte Écriture, ou du moins leur ordonner de se soumettre d'abord eux-mêmes à l'examen de l'université. Les docteurs du roi ne firent pas défaut à la cause des Lumières. Ils prirent hardiment l'offensive. « Si l'université de Paris, dirent-ils au Parlement, est maintenant en petite estime parmi des nations étrangères, c'est parce qu'au lieu de s'attacher à l'étude des saints évangiles et des anciens pères, des Cypriens, des Chrysostomes, des Jérômes, des Augustins, ces théologiens substituent à cette science véritable un art sophistique et une dialectique subtile. Ce n'est point ainsi que Dieu veut éclairer son peuple. Il faut étudier les saintes lettres et puiser librement dans tous les trésors de l'esprit humain. » Béda avait été trop loin. À la cour et dans le Parlement même, des voix nombreuses s'élevèrent en faveur des lettres et des lettrés. Le Parlement repoussa les accusations du syndic de la Sorbonne. Béda, indigné, mit alors toute son éloquence à faire condamner les professeurs par la Sorbonne elle-même. « Les nouveaux docteurs, s'écria-t-il, chose horrible à dire, prétendent que la Sainte Écriture ne se peut entendre sans la langue grecque, la langue hébraïque et autres semblables. » Le 30 avril 1530, la Sorbonne condamna en effet comme téméraire et scandaleuse la thèse que Béda lui avait dénoncée. Calvin suivait avec intérêt, dans toutes ses phases, cette lutte entre ses maîtres et les docteurs de la Sorbonne. Tous les étudiants étaient aux aguets. Calvin l'était lui-même dans son collège, et quand la décision du Parlement y arriva, elle fut accueillie par de grandes acclamations. Tandis que la Sorbonne se mettait du côté de la tradition, Calvin se plaçait toujours plus décidément du côté de l'Écriture. Il croyait que l'enseignement oral des apôtres ayant cessé, leur enseignement scripturaire était devenu son substitut indispensable. Les écrits de Matthieu, de Jean, de Pierre, de Paul étaient selon lui la parole vivante de ces grands docteurs, leur enseignement pour les siècles qui ne peuvent ni les voir ni les entendre. Il paraissait aussi impossible à Calvin de réformer l'Église sans les Écritures des apôtres qu'il eût été au premier siècle de la former sans leurs prédications. Il comprenait que si l'Église devait être renouvelée, il fallait que ce fût par la foi et par l'Écriture, double principe qui n'en forme qu'un. Mais le moment n'était pas encore venu où Calvin proclamerait ses grandes vérités avec l'autorité d'un réformateur. Modeste et dévoué, il accomplissait alors une œuvre plus humble dans les rues les plus reculées, dans les maisons les plus solitaires de la capitale. On lui prit pour le plus insignifiant des êtres, et pourtant déjà alors, il était un conquérant. La lumière des Écritures, dont son intelligence était inondée, devait un jour comme l'éclair se faire voir de l'Occident jusqu'en Orient, et nul homme depuis saint Paul ne devait tenir aussi haut et aussi ferme le flambeau évangélique. Quand l'étudiant, maigre, pâle, obscur, d'une apparence chétive, d'une tournure timide, passait dans la rue Saint-Jacques ou dans celle de la Sorbonne, quand il longeait d'un pas silencieux les maisons et se glissait inaperçu dans quelques-unes d'entre elles pour y porter une parole de vie, il n'y avait pas même une vieille femme qui le regardât. Et pourtant, il devait venir un temps où François Ier, sa politique, ses conquêtes, ses prêtres, sa cour, ses fêtes ne seraient plus qu'un souvenir frivole ou dégoûtant, tandis que l'œuvre que ce pauvre écolier commençait alors par la grâce de Dieu croîtrait de jour en jour pour la prospérité des peuples et s'avancerait, tranquillement mais sûrement, à la conquête de l'univers.